stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pino et Grégoire Di Fiore et prise de son assurée ce soir par Élise Leu. Émission réalisée par Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Mathieu Conquet, Christophe Comte, Joseph Gauss. À notre affiche, Ununiform. Je vais arriver à le dire, mais après l'émission sans doute. Nouvel album de Tricky, The Laughing Apple, de Youssouf, slash, ou pas slash, ou tiré d'union.
Plus du tout, plus rien du tout.
Plus rien Youssouf, du tout. Non. Youssouf, Cat Stevens. Alors maintenant, c'est le retour de Cat Stevens, Joseph.
Oui, il y a Cat Stevens.
Bon,
c'est pareil.
On en reparlera. Mauvais Poil, de Bernard Lavilliers. Présent également ce soir, Boris Pino qui surveille, attention, il y a plusieurs écrans dans son écran, qui surveille le fil Twitter, Dispute FC, pour donner à entendre vos commentaires, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, les invitations pour voir l'exposition Artisan de la Seine, à découvrir au Centre National du Costume de Seine à Moulins. Première bévue déjà, 19h05, ça commence bien. J'ai titré l'album de Bernard Lavilliers, Mauvais Poil. C'était l'ancien titre, c'est ça, Christophe Comte? C'est vous qui choisissez, je crois.
Je suis pas du tout au courant, je crois que c'est Mathieu qui a cette info.
Non, Mathieu Conquet.
C'est peut-être votre sentiment à l'écoute du
je
disque.
Je sais pas, Boris Pino, vous savez d'où ça vient ce titre que j'ai.
Je pense que ça devait. J'ai vu une trace sur internet, donc je pense que ça a dû être un titre provisoire.
Titre de travail. Bon, maintenant il s'appelle 5 minutes au paradis. On verra si c'est notre cas tout à l'heure. Mais pour l'instant. On ouvre cette dispute avec le nouvel album de Tricky, quand même, à des musiciens, une des grandes énigmes de ces 25 dernières années, disparaissant souvent, réapparaissant toujours, en fait assez prolifique. Ununiform est son 13e album, mais c'est le 4e en 4 ans en plus. Tricky est installé à Berlin depuis quelques années, il prétend y mener une existence paisible, ayant notamment réglé ses dettes au fisc.
Mais sobre.
Sobre. Bah, du coup, il dépense moins d'argent, du coup, il peut payer ses impôts. Alors, quelle incidence sur sa musique ? Réponse avec nos critiques ce soir, après avoir écouté Wait for Signal, featuring Asia Argento.
I'll keep her in the middle, while she waits for signal. My brain's a busy signal, I guess it hurts a little. Let's just talk a little, things we care about. You can be my middle, and we can breathe it out. I guess you leave me now, you don't believe me how. You leave me now, wait for you to come. I'm in the middle, I'll wait for signal. I'm in the middle, I'll wait for signal. Sometimes we walk about, we go around, we talk about.
Sometimes we walk about, we go around, we talk about.
about, go around, we talk about.
C'est son nouvel album. L'album s'intitule, je me trompe pas titre, hein. Qui veut le prononcer? Tiens, Joseph Gosne.
L'album s'appelle Ununiform.
Ah ouais, mais vous êtes trop
sans
fort,
uniforme.
Ouais, d'accord, mais j'aime
un peu comme ça.
Je suis sûr qu'il y a un truc à faire, Christophe Comte. Comment vous le diriez, vous?
Ununiform, pareil, comme
oh
Joseph.
Bah,
maintenant qu'il l'a dit en même temps, c'est plus facile.
Mathieu Gonquet.
Vous voulez que je vous rende service? Ununiform, si vous voulez.
Ouais. Non, non, moi j'aimais bien un truc à you-you.
Uniform.
Bon,
non, c'est la négation, ouais.
Bon, Mathieu, vous avez pris la confiance, donc vous avez commencé cette dispute sur Tricky. Tricky,
bonsoir à
vous,
tous.
Vous le situez où dans votre paysage musical et ce dernier album se fait. Est-ce que le Berlin et la paisibilité de sa vie se fait sentir?
Lui réussissent sans doute. Où placer Tricky à titre personnel assez haut ces dernières années? C'est une figure qui a été vraiment très importante. Alors, les mots trip-hop et Bristol reviennent toujours pour le présenter, mais
c'est normal.
C'est difficile de.
Il était dans Massive Attack quand même.
De faire autrement. Alors c'est bien que vous ayez choisi ce morceau.
Je vous remercie de me flatter.
Avec Asia Argento, parce que ça fait une petite présence féminine qui nous manque un petit peu ce soir. Mais il y a toujours beaucoup d'invités. Je voulais peut-être commencer par là, par les featuring, ou en tout cas le nombre d'invités qu'il y a sur ce disque, parce que Tricky, depuis ces dernières années, c'est un chanteur qu'on entend moins dans ses disques. Il met beaucoup plus les voix des autres en avant. Lui, on l'entend marmonner, chuchoter très près du micro. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé chez lui, c'est que Tricky, c'est quelqu'un qui fait de la prise de son, qui vous donne toujours l'impression d'être dans l'instant présent. Vous êtes en train de l'écouter, vous avez l'impression d'être en direct avec lui. C'est quelque chose qu'on entend ici, visiblement, il est très en forme, effectivement, avec cet album. Il y a juste après une ouverture qui est plutôt réussie, un morceau qui va donner le ton du reste de l'album, où il invite un rappeur kazakh, qui s'appelle Skriptonite, qui visiblement est en vogue, puisque Diplo l'a invité à travailler avec lui aussi. Et visiblement, en vivant à Berlin, Tricky a fait les connaissances de plusieurs rappeurs russes. Il y en a trois qui sont invités sur l'album.
Pas russe, si c'est un kazakh, hein, méfiez-vous.
Voilà, alors,
il pourrait y avoir des problèmes, Mathieu, de géopolitique.
Voilà, mais c'est pour ça que j'ai précisé celui-là. Bon. Celui-ci est kazakh. Mais ne me demandez pas d'expliquer les textes. Je sais pas si l'un de vous a mis la main sur une traduction.
Joseph Gosne parle kazakh, je crois, assez couramment. Joseph,
couramment, mais
première impression sur ce Tricky.
Premières impressions plutôt très très touchantes, en fait. J'étais très touché par l'ensemble du disque, parce que évidemment j'écoute Tricky depuis pas mal de temps, depuis ses débuts avec Maxine Quay, son premier album, qui d'ailleurs a récemment été classé par je ne sais plus quel site influent comme le meilleur album de son genre et sans doute de son époque. En tête, en tout cas, je crois que c'était Pitchfork, enfin je sais plus. Mais bref, en tout cas, Maxine Quay a été un album important, celui d'après aussi, Nearly God, etc. Donc c'est un artiste important, qui à mon sens est un tout petit peu perdu dans un peu trop de tension, peut-être un peu caricaturé, enfin un peu d'autocaricature, etc. Ici, j'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose d'assez... un Tricky plutôt apaisé, évidemment, effectivement. Moins de tension... Plus de retour sur lui-même, j'ai l'impression. J'ai eu ce sentiment d'entendre quelqu'un qui revenait un peu sur ses premières années, sur sa jeunesse. Notamment le dernier morceau de l'album, je crois qu'il s'appelle When We Die, sur lequel il invite Martina Topley-Bird, qui est quand même l'autre voix qui avait fait justement toute la beauté de Maxine Quay. Et c'est vrai que la conjugaison de leur voix était vraiment essentielle. Et là, on retrouve un peu de ça. J'aime bien aussi, comme le disait Mathieu, cette facilité qu'a Tricky à laisser la parole aux autres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, le côté où il invite des rappeurs russes Ça m'a un peu moins marqué parce que malheureusement, je ne maîtrise pas le russe.
Ah, j'avais une mauvaise information. Kazakh,
oui, mais pas,
ah,
pas
d'accord.
Tout,
voilà. Oui, oui. D'accord.
Donc j'étais un peu perdu à ce niveau-là et je trouve ça un peu, peut-être un peu complaisant. En tout cas, lui explique ça comme une espèce d'affection qu'il a particulièrement pour Moscou. Et certains des morceaux ont été enregistrés là-bas à Noël 2016, je crois. Maintenant, je trouve que le disque, dans son ensemble, est effectivement très plaisant, très, très doux, finalement. Je le trouve peut-être pas au niveau d'autres choses qui sortent de cette école de Bristol, d'un disque notamment qui vient de sortir d'un collectif qui quand on l'écoute vient droit de Massive Attack et de Tricky, hein, le collectif s'appelle Jabou et qui aussi fait de la bass music comme ça très profonde avec des voix. Tricky est peut-être un tout petit peu en retrait, mais peut-être que c'est aussi par cet effet de retour sur lui-même et pas un petit effet de nostalgie, voilà. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt un bon disque.
Christophe Comte sur Tricky.
Je vais aller un peu dans le même sens, sachant que Tricky, moi j'ai un peu lâché l'affaire en cours de route, hein, je dois vous dire. Évidemment,
beaucoup.
Maxine Quay, tout ça, ouais. Bon, ça fait partie de l'histoire maintenant.
Et c'était en 95. Hein.
Voilà, maintenant, il y a eu des albums ces dernières années, il y en a eu beaucoup, vous l'avez dit. J'avoue que là, je les ai réécoutés.
Il y en a eu des bons, hein.
C'est dans l'ensemble, le niveau
est bon,
toujours
hein,
assez
2010,
bon.
On va dire.
Là, il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus personnel, je trouve que le fait qu'il soit à Berlin, je ne sais pas si c'était le cas sur le précédent, j'ai trouvé qu'il y avait une petite influence assez lointaine, mais quand même présente du minimalisme allemand. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a des morceaux assez épurés qui sont très beaux. Évidemment, il se calme. Il le dit d'ailleurs. Le deuxième morceau s'appelle Calm Down. Donc, il y a vraiment un truc comme ça. On sent qu'il est à la recherche d'une espèce de zénitude comme ça, dans lequel on l'a rarement vu. Parce que moi, je me souviens l'avoir vu avec Massive Attack. C'était l'année dernière. Il était encore là. Il vient faire des featuring. Il est toujours quand même. C'est l'hyper tendu de la bande qui arrive et qui mange le micro. Il y a un truc quand même, une tension qui se forme dès qu'il arrive, qui est vraiment lié à ce personnage qu'on a connu quand même, qui est assez brutal, assez rugueux. Et là, il y a quelque chose de très sensuel, beaucoup plus que sur certains de ses disques. Et ça a été vraiment une très bonne surprise. Pour tout dire, je l'avais dans ma pile depuis longtemps, comme on dit. Et je ne m'étais pas précipité dessus, parce que je m'étais dit, voilà, ça va être encore un album de Tricky, comme on a déjà entendu. Et là, je trouve que, en dehors, effectivement, alors je suis comme Joseph, moi je suis un petit peu là, pour le coup, je parle des rappeurs russes, là je comprends pas bien. Je trouve qu'il y a à un moment une collure qui se fait pas tellement, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Peut-être qu'il a un marché russe à ouvrir et qui peut-être sera profitable, mais là, moi, pour le coup, c'est les morceaux que j'ai pas envie vraiment de réécouter.
Mais la sensualité, alors pas seulement avec Azer Argento, hein, parce que bon, ce morceau-là, c'est assez évident, mais je trouve que c'est une des marques quand même. Alors, il avait une sensualité, on va dire, plutôt hardcore,
plutôt animal, et là,
il y a quelque chose d'une douceur, mais qui va aussi avec le minimalisme, mais dès Maxine Quay, on sent qu'il y a quand même ce goût chez lui. Il y a certains morceaux, toujours, dans ses albums, même les moins réussis, qui recherchent cette épure, qui recherchent, effectivement, une presque rien au niveau mélodique, et tout se joue, ce que disait Mathieu Conquet tout à l'heure, sur aussi une prise de son, une qualité de voix, et de... Bon, bien sûr, il y a des basses qui sont toujours importantes chez Tricky, mais il y a le minimalisme, érotisme presque aussi, par moments.
Il y a toujours une sorte de torpeur chez lui, quand même, dans certains morceaux. On pourrait quasiment dire la torpeur du fumeur de joint, hein, si on veut pousser le cliché autour de lui.
Et puis après, on pourrait dire aussi ça. L'énervement du fumeur d'autre chose.
Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'en écoutant ce disque... avec sans doute cette sensualité et cette douceur dont je parlais tout à l'heure, j'avais l'impression de voir le négatif du Tricky qu'avait filmé Steve McQueen, je sais pas si vous vous souvenez, Tricky en train de boxer, en train de cogner, et là on a l'impression que le personnage a peut-être vieilli, en tout cas qu'il a muté vers autre chose.
Mathieu Conquet.
Oui, puis il y a toujours, ça vous le disiez, il y a ce jeu de texture, de son qui est vraiment, ça reste un producteur vraiment très brillant. Mais en plus, c'est aussi quelqu'un qui se met, notamment depuis son précédent disque, je ne sais pas si c'est l'avant-dernier ou le dernier, qui s'appelait Adrian Those et qui portait le nom de son père, ce qui était une façon de boucler la boucle, hein, puisque Maxine Quay, c'est le nom de sa mère. Donc il y avait quelque chose de très biographique. graphiques là-dedans. Et depuis cet album-là, enfin, il l'a toujours fait, mais j'ai l'impression qu'il commente encore plus l'histoire musicale, ce qui a compté pour lui. Il y avait déjà des reprises. Il y avait une reprise de Silly Games de Janet Kay, qui était un super titre de 79, qui était vraiment bien. Gangster Chronicle, qui était repris aussi. Et là encore, il y a une reprise avec Doll, une reprise de Hole. Donc c'était le groupe de Courtney Love. Et il y a une façon assez courageuse et touchante, je trouve, de revenir sur les années 90 auxquelles il est associé. On pourrait penser qu'il voudrait tenir ça à distance, et pas du tout. C'est une reprise qui est pas complètement décoiffante. La prise de voix, elle est très ressemblante à ce qu'on connaissait de l'original. En revanche, dans la production, ce qu'il organise derrière est toujours suffisamment un peu tordu, un peu grinçant, suffisamment dissonant, mais en même temps très amené de façon très douce et très subtile. Et je trouve que ça s'écoute plus qu'agréablement. Ça vous fait aussi réfléchir.
Christophe Comte.
Oui, cette reprise de Dolls, d'ailleurs, il s'appelait pas comme ça à l'origine, le titre, hein, c'était Dolls quelque chose, le titre de Hole, mais elle est assez étrange parce qu'il y a de la guitare acoustique, il y a des instruments qu'on n'entend pas forcément chez Tricky. Après, bon, c'est pas ce que j'ai préféré non plus sur l'album. Je trouve c'est un peu mon problème générique, on dirait, avec Tricky depuis toujours, c'est que j'ai du mal à m'attacher à quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un kaléidoscope tellement large et parfois un peu abusé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si on écoute l'ensemble de son œuvre, c'est quand même, c'est difficilement pénétrable. Alors, ça se passe plus sur des morceaux, en fait, des moments comme ça. Il y a des albums qui sont très réussis de A à Z. Là, sur celui-là, je dirais, il y a vraiment une plage sur deux qui, voilà, où on se dit, bon, il aurait pu être un peu, enfin, se soigner un peu plus, mais il y a vraiment des très, très beaux morceaux. Donc, c'est encore une fois un disque inégal, mais malgré tout, pour quelqu'un qui a une carrière maintenant de près de 20 ans, qui est quand même très, très digne.
Question pratique destinée à mes camarades derrière la vitre, Élise-le et Daniel Finot. Vous avez le vrai disque ou vous aviez juste un fichier j'aurais bien que vous me caliez la deuxième plage, alors, si vous voulez bien. Si c'est bien Same As It Ever Was, merci.
Qui rappelle les Talking Heads.
Non, mais parce que voilà, ça va faire une autre. Ça va faire une autre sonorité. Boris Pinot.
Oui, via Twitter, Quentin A. écrit sur un album magnifique entre passé, constance et réinvention.
Ouais, c'est presque une synthèse de ce qu'on vient de dire.
Oui, c'est exactement ça. Avec aussi ce qui tient Tricky depuis toujours, c'est aussi sa voix. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même parler de ça. Et sa voix est d'autant plus forte et belle qu'elle est justement entourée d'autres. Les rappeurs russes, ils ne le sont pas. Et bon, toutes les femmes autour de lui, puisqu'il en a convoqué un certain nombre. Et ça ressort d'autant plus. Et c'est assez intéressant de voir que la reprise de Hall est chantée par quelqu'un d'autre. Et c'est comme si justement il se réappropriait cette scène-là et qu'il en refaisait quelque chose à lui.
Non, alors ils ont disparu derrière la console. Je suis pas sûr que bon, le disque est bloqué dans le lecteur, donc on n'aura pas de Same As It Ever Was ou une autre. Mais voilà, dire que encore un mot sur Tricky, messieurs. Mathieu Conquet.
Moi, je serais assez curieux de voir ce que ça va donner en concert, parce qu'il va, sera à Paris le 15 décembre, je crois, et puis le lendemain, il sera à Strasbourg.
C'est vrai. Et le 15 novembre, il sera à Lausanne, si vous voulez prendre un peu d'avance.
Passe la frontière.
Il est dans la lumière maintenant, concert, parce que moi, je l'ai pas vu depuis très longtemps.
Alors voilà, c'est tout l'intérêt des concerts de Tricky, c'est est-ce qu'il sera éclairé et est-ce qu'il aura très envie de chanter, parce que il a tellement envie de mettre en avant les autres qui sont autour de lui que parfois vous venez pour lui quand même. Il peut y avoir cet aspect déceptif. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Bataclan. Il n'avait pas le batteur prévu. La chanteuse n'était pas Francesca Belmonte, avec qui il travaille beaucoup ces derniers temps. Et le charme était assez. Le charme était rompu.
Joseph Gosse.
On sent quand même qu'il y a une volonté de se normaliser, de revenir à quelque chose de plus serré. Et il le dit lui-même, en fait, dans certaines notes que j'ai pu lire, où il dit qu'il a enfin découvert qui était son grand-père, et qu'il avait un grand-père DJ de reggae, qui apparemment a eu un rôle important dans la musique anglaise, en tout cas à un moment, dans les années 50 ou 60, je crois, et que ça l'a un peu réconcilié avec sa propre histoire familiale, on a dit un mot tout à l'heure, et aussi, sans doute, avec l'histoire de la musique. Donc, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus posé. Donc, j'imagine que les concerts vont l'être un peu plus aussi.
Bon, on verra ça. Le 15 novembre à Lausanne, le 15 décembre à Paris, c'est l'Élysée-Montmartre, et le 16 décembre à Strasbourg, pour venir défendre ce nouvel album, Un-Uniform, sorti chez False Idols. On va suivre dans la dispute Youssouf, Cat Stevens et Bernard Lavilliers. Là encore, si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le deuxième disque à l'affiche de cette dispute musique ce soir, c'est donc The Laughing Apple, la pomme qui rit, hein, de Yusuf Cat Stevens. Il y a 50 ans, son premier disque sortait chez Decca, il s'appelait simplement Cat Stevens à l'époque. Le disque s'appelait Matthew and Son. En 1977, il y a donc 40 ans, Cat Stevens est devenu Yusuf Islam. Et pour ce nouveau cru 2017, The Laughing Apple, on peut à nouveau l'appeler, c'est marqué sur la pochette du disque, Yusuf Cat Stevens. Bon, les deux noms sont accolés. C'est un disque qui propose une moitié de chansons originales et une moitié de reprises, le tout illustré par l'artiste lui-même, ce qui est toujours évidemment très dangereux, on en parlera peut-être. Il retrouve en tout cas son premier nom de scène accolé à celui de sa conversion à l'islam. Est-ce un signe ? Écoutons Blackness of the Light qui ouvre l'album.
In the blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, for this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising, and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star, from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, but this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side.
Et pendant que nous écoutions ce morceau inaugural du nouvel album de Cat Stevens, Yusuf, le disque tourne autour de la table de ce studio pour regarder les images. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va commencer quand même par la musique. Joseph Gosn.
Eh bien, oui, tout à fait. Commençons par la musique. Moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé du morceau qu'on vient d'entendre. Moi, je le trouve très beau.
Boris Pinot aussi.
J'étais très agréablement surpris par cet album, ouais. Notamment par ce morceau. Enfin, bon, il faut avouer que j'ai une faiblesse pour les vieux chanteurs sur le retour depuis.
Vous avez
depuis
des
les
noms.
Années 90, c'est Johnny Cash, par exemple. Souvenez-vous.
Ouais,
quand même.
C'est vrai.
Donc depuis, j'ai toujours une faiblesse comme ça. Je m'attends toujours au nouveau Johnny Cash.
D'accord.
Bon, là, c'est pas le cas, mais j'ai bien aimé écouter cet album. Je le trouve plutôt de bonne facture. J'aime bien sa façon de chanter. Au bout d'un moment, je m'en lasse un peu quand même, j'avoue. Certains arrangements sont parfois pas très très adroit. Là, par exemple, il y a un petit coup de batterie en trop, même si l'orgue est très beau derrière. Voilà, c'est un joli disque. Je vois pas trop à quoi il sert exactement. mais j'ai trouvé ça quand même assez plaisant.
Alors, il sert, selon notre camarade Hugo Cassavetti, qui l'écrit dans Télérama, à retrouver d'une façon, avec une limpidité inespérée, la sagesse et la douceur incarnées que sont pour lui Cat Stevens. Cat Stevens est de retour, dit notre camarade Hugo. Christophe Comte.
Ouais, alors la sagesse et tout ça, moi je veux bien, mais enfin, faut quand même rappeler quelques épisodes un peu fâcheux. Allez, de la carrière de Cat Stevens, de Yusuf Islam plus exactement, qui a quand même adoubé la fatwa contre Salman Rushdie à un moment, tout en prétendant après que c'était une blague, alors qu'on lui posait la question, faut-il que cet homme meure? Il a répondu oui, évidemment, et après il a dit c'était une blague. Enfin, bon,
super bonne blague.
Il l'a dit c'était une blague 5 ans plus tard, donc si vous voulez, on a eu le temps de pas tellement rire entre temps.
Oui, c'est sûr.
Et puis là, il y a quelques mois, il était avec le fameux Erdogan en train de négocier une mosquée à Birmingham, donc je veux dire, il a des accointances qui sont quand même un peu douteuses depuis longtemps, même si il prétend incarner un islam soufiste très apaisé, etc. Mais bon, cette parenthèse mise à part, mais qui est quand même importante, qui a parmi les nouveaux morceaux un morceau qui s'appelle Don't Blame Me, Don't Blame Them, pardon, et qui dit de ne pas blâmer les femmes qui portent un voile, etc. Très bien, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf qu'on a quand même un dessin à l'intérieur, on voit une fille voilée avec un panneau sans s'interdire, un doigt qui la pointe. Enfin,
la fille a dans les mains un livre où elle a marqué
Love God.
Aimer Dieu.
Voilà. Bon, tout ça n'entre pas tellement en compte dans l'appréciation qu'on peut avoir de ce disque, hein, qui est à la fois très beau. Alors moi, je dis ça de manière en plus très... très satisfaite, parce que pendant très longtemps ça a été un de mes combats. Il y avait deux personnages des années 60 qui ont un peu mal viré après, que je m'acharnais à défendre, qui sont Cat Stevens et Al Stewart, qui sont deux types comme ça qui ont commencé à la fin des années 60 et qui ont posé vraiment les bases d'une espèce de folk baroque assez beau, et qu'on a après qui sont devenus des superstars dans les années 70 en faisant des disques qui était un peu différent, un peu plus baba cool, Al Stewart avec Year of the Cat, et puis Cat Stevens, les deux peuvent se mélanger d'ailleurs, avec le My Lady d'Armanville, etc. Qui étaient pour moi des disques vraiment qu'on n'écoutait plus parce que c'était les disques des grands frères, qu'on n'en pouvait plus de les entendre, des disques de feu de camp. En revanche, cette période des années 60, la fin des années 60 de Cat Stevens, c'est vraiment à redécouvrir. Et là, c'est lui-même qui nous l'a fait redécouvrir avec quatre morceaux extraits de l'album New Masters, qui doit dater de 67. Et on redécouvre ces mélodies qui sont absolument prodigieuses quand même. I'm So Sleepy, qui est le dernier morceau, c'est vraiment splendide. Et alors, ce qui est un peu bizarre dans l'articulation de tout ça, c'est qu'il a fait appel à ses arrangeurs des années 70 pour réarranger ces morceaux des années 60. Donc, il les transforme un peu. Bon, alors après, dans la production, on peut effectivement trouver ça un peu... par moment, voilà, c'est très routinier, c'est assez beau, mais on s'ennuie un peu. Il faut réécouter les originaux. Moi, j'ai fait les comparaisons. Alors, à l'époque, il a une voix un peu plus acide, qui est pas forcément très agréable. Une voix à la Dylan, un peu. Là, maintenant, il a une voix de sage, beaucoup plus posée. Les interprétations sont assez belles, mais ça reste quand même un disque. Voilà, pour les quinquas, sexagénaires, je pense pas que ça parle à beaucoup de monde. Et quand on lit, c'est le grand retour de Cat Stevens, etc. Mais il fallait écouter ses deux ou trois derniers albums sous le nom de Yusuf, qui étaient exactement de la même facture, qui sont très très beaux, mais qui semblent dater d'un peu d'une autre époque. Quoi. C'est bon, on peut trouver ça... extrêmement enthousiasmant, mais je pense pas que voilà, ça ait vraiment d'intérêt aujourd'hui, sinon pour lui et pour les gens qui ont bien aimé ça dans leur jeunesse.
Vous arrivez à la même conclusion que Joseph Gauss, hein, oui, quand même. On creusera cette question. À quoi sert ce disque?
Il y a beaucoup de disques qui servent à rien, mais qui sont assez plaisants aussi. Ouais. Et c'est vrai que tous ces gens qui reviennent, c'est vrai que Johnny Cash a vraiment créé une espèce de matrice comme ça, dans laquelle tout le monde s'est engouffré. On a même découvert à la mort de Tom Petty cet album aussi qu'il a fait acoustique, etc. Tout le monde a fait ça finalement, plutôt bien. Des gens respectables ou moins, mais qui se retrouvent C'est le syndrome Henri Salvador aussi. Enfin, oui, il y a toujours ce côté, quand on arrive à un âge très avancé, de se poser, d'arrêter les arrangements un peu craigneux de l'époque et puis de faire quelque chose d'intemporel. Et là, avec...
Il n'y a pas grand risque à le faire.
Il n'y a aucun risque, surtout quand les compositions datent d'il y a 50 ans.
Qu'elles tiennent la route.
Il avait cette fraîcheur...
Alors, est-ce que vous avez la réponse, Mathieu Conquet? À quoi sert ce disque de Cat Stevens?
À retrouver, visiblement, ses anciens partenaires, parce que Christophe Conquet l'a dit, il travaille ici avec Alun Davis, qui est le guitariste avec qui il a souvent travaillé, Paul Samuel Smith, qui était le bassiste des Yardbirds, qui est ici à la production. Il y a un savoir-faire manifeste dans ce disque qui est vraiment... Enfin, faut vraiment être difficile pour pas succomber aux 3-4 premiers morceaux qui sont... très joliment arrangé, très joliment enregistré. Sa voix a un petit peu changé, mais on est assez troublé de voir que quand même en 40 ans, elle a
50.
Elle a quasiment pas pris de rides. En tout cas, c'est moi j'ai bien aimé le. Il y a un titre, c'est justement de Laughing Apple, qui fait un peu friser l'oreille, où il y a des accents un peu celtiques qui sont comme ça inattendus. Maintenant, c'est un disque qui est un petit peu court. Il fait une grosse demi-heure et les deux derniers titres. Alors, I'm So Sleepy, si vous voulez vous endormir, c'est parfait. Et dans Blame Them,
c'est un concept album
très faible.
C'est très beau, ça.
Et quand même très faible et on s'ennuie quand même. Donc ça fait 26 minutes où on s'ennuie pas. Et moi, je trouve le disque un petit peu court. Ensuite, sur le côté philosophie, effectivement, il nous dit qu'il est heureux, qu'on peut faire ce qu'on veut, you can do whatever you want. Il est plutôt sympathique. Il a envie d'être un grand-père et de regarder ses petits-enfants jouer. Et ensuite, alors au début, on trouve tout ça. Il y a une naïveté, mais qui peut être très touchante parce qu'on la sent sincère, comme Paul McCartney, capable de le faire aussi dans des morceaux qui sont très simples, mais voilà, qui sonnent juste. Je peux très bien comprendre qu'il ait envie d'être grand-père et d'acheter des jouets à ses petits-enfants, mais il y a un moment où la naïveté touche à quelque chose d'un peu agaçant, notamment dans ce morceau dont vous parliez, Christophe, Don't Blame Them, qui se finit par ne dites pas du mal d'eux, parce que eux aussi finiront par vous blâmer.
Oui.
Ouais, c'est un peu compliqué
comme beaucoup de choses que vous avez d'ailleurs rappelées. Alors, pour répondre à la question de Zavgon, ce que j'en ai pensé, moi j'ai pas attendu 26 minutes pour m'ennuyer. Le terme joli est revenu plusieurs fois, mais j'attends pas d'un disque qui soit joli. Enfin, j'attends qu'il me provoque des émotions, si possible, un peu fortes. Là, c'est un joli robinet que j'ai plutôt envie de fermer assez rapidement. Joseph.
Non, je suis assez d'accord avec vous, avec quand même une. Je mettrai quand même quelques bémols, oui. En essayant de contextualiser un peu ce que c'est quand même. C'est-à-dire, alors effectivement, il y a le rapport avec Johnny Cash, en tout cas, c'est ces disques de vieux qu'on pourrait évoquer.
Ah oui, mais alors, par contre, j'ai oublié de dire ça. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Désolé Joseph, mais ça n'a rien à voir avec Johnny Cash. Johnny Cash, quand il est revenu avec ses albums dépouillés où il est tout seul, c'est d'un. Moi, je les trouve magnifiques aussi ces disques, mais c'est quand même d'un lugubre. Enfin, on a l'impression que la mort plane au-dessus de lui. C'est extrêmement lourd, extrêmement dense. Là, c'est d'une luminosité totale et c'est très cohérent avec tout ce qu'il avait fait avant. Il n'y a pas de rupture du tout.
Bon, Johnny Cash a toujours été dans la noirceur. On a toujours senti la mort planer depuis ses débuts. Donc c'était assez logique.
Dans la
Johnny
forme,
Cash, Johnny Cash, en plus, quand il revient à ce moment-là, il est vraiment totalement sorti en fait. Personne n'écoute Johnny Cash, il est totalement has-been, et Rick Rubin le remet sur selle. Et quand je parle de vieux qui essaient de se remettre en selle, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on essaie de se réinventer en capitalisant un peu sur du passé, en essayant une esthétique un tout petit peu plus dépouillée, un peu plus intemporelle, comme le disait Christophe, le parallèle était là.
Mais beaucoup l'ont réussi, ça d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Donovan,
il y a beaucoup de gens. Mais non, mais ce que je voulais recontextualiser un peu, c'est et Christophe l'a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire d'où vient ce chanteur des années 60 de l'Angleterre, et d'un moment où ils étaient quand même plusieurs à essayer des disques, on va faire des disques qui étaient plutôt dans une veine folk. Mais qui s'inspirait du réel, qui prenait beaucoup dans le réel. Quand on pense par exemple à des gens comme Burt Jansch, ou même Donovan, etc., il y a beaucoup du réel qui passe dans ça, que ce soit de la protestation ou autre chose, mais il y a quelque chose comme ça. Petit à petit, Cat Stevens, lui, s'est fait bouffer par le réel, par ses convictions, etc. Et on a l'impression qu'ici, il tente quelque chose, il tente une espèce de retour à quelque chose, à une autre forme de réel, où il essaie de s'adresser à des enfants, où il parle d'enfants, il parle du fait d'être grand-père, etc., et qu'il tente quelque chose qui pourrait être lié à son héritage des années 60, d'être dans quelque chose comme ça, d'être un tout petit peu plus ancré dans du terrain, on dirait presque. Je trouve que c'est pas du tout réussi, mais j'ai l'impression que ça joue un peu avec ça.
Ouais. Christophe Comte.
Non, oui, pas mieux.
Pas mieux.
Moi, encore une fois, il faut réécouter les premiers Cat Stevens en imaginant qu'il a fait autre chose avant les Wild World, etc., qu'on connaît, qui sont des très belles chansons, mais qui sont quand même un peu ronflantes. Il y a dans ses premiers albums, quelque chose qui est assez singulier.
Mathieu Conquet.
Et puisque je crois qu'il y a un des morceaux qui vient de la bande originale de Harold et Maude, mais qui n'avait pas été
très retenu, oui. Mais il n'avait pas été gardé.
Il y a un morceau qui n'avait pas été gardé. C'est aussi l'occasion, si vous revoyez le film Deep End de Jerzy Skolimowski, de revoir, réécouter sa chanson But I Might Die Tonight, qui était extraordinaire, qui est à l'opposé de ce qu'on entend dans ce disque-là, mais qui était aussi un très beau morceau. Et oui, Cat Stevens a quand même une place importante, même si on a minoré, on a tendance à être un peu déçu par ce disque, mais ça reste un auteur important.
Oui, on fait pas la dispute art plastique, c'est tant mieux. D'ailleurs, tiens, je signale une première fois, attendez que demain, exceptionnellement, la dispute sera enregistrée à 14h30. On sera à la Fondation Louis Vuitton pour parler de l'exposition consacrée au chef-d'œuvre du MoMA, être moderne. Donc rendez-vous demain à la Fondation Louis Vuitton. Non, art plastique, les dessins. Christophe Comte, vous les avez sous les yeux.
C'est assez consternant, mais bon.
c'est le petit prince du pauvre, quoi.
Oui,
c'est...
voilà. Ça ressemble un peu au dessin de John Lennon en même temps. Donc on peut pas être bon partout.
Mais il y a toujours, sur ces pochettes, si je me souviens bien, une esthétique un peu comme ça, du dessin pas très réussi, un peu naïf, et j'ai l'impression qu'on les retrouve un peu là.
Oui.
Je ne sais pas ce que symbolise, moi, cette pomme rouge au milieu des autres.
C'est toujours un point rouge dans chacun des dessins, vous l'avez remarqué, ça peut être le pollen d'une fleur.
Non, c'est une pomme qui rit, il explique qu'il y a une seule pomme qui rit alors que les autres ne rient pas. Ça pourrait être un morceau psyché, mais en fait non.
Pourquoi il n'y a qu'une seule pomme qui rit?
Mais The Laughing Apple, ce n'est pas un conte anglais? Je crois qu'il y a une histoire comme ça, puisqu'il y avait un groupe justement néo-psychédélique dans les années 80 qui s'appelait The Laughing Apple, qui a donné après naissance à plusieurs autres groupes.
Bon, on verra ça dans la dispute littérature, on retrouvera ce conte anglais. C'est l'avantage de cette émission. The Laughing Apple, il fait plus de concerts, Cat Stevens? Ou il tourne encore? Vous l'avez vu, vous, de ces 30 dernières années ou...
Non.
Il a fait des concerts. Oui,
mais plutôt en Angleterre, non?
C'est possible.
J'ai pas l'impression qu'il sorte beaucoup
de... J'ai pas le souvenir de Lina. Bon,
moi, je n'ai pas vu, en tout cas, de concert annoncé pour ce nouvel album, La Pomme qui rit, de Youssouf Cat Stevens, qui est sorti chez Decca.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Enfin, le troisième sujet de cette dispute du mardi soir consacré à la musique, c'est 5 minutes au paradis, le vrai titre du nouvel album de Bernard Lavilliers. Enfin, parce que très envie qu'on en parle ensemble de ce 21e album studio pour le musicien lui aussi, septuagénaire, qui livre ici 11 morceaux en 42 minutes. En guise d'amuse-bouche, La Gloire, chanson sur un poème de Pierre Segers qui ouvre l'album.
Flamme, mon tueur, mon bel assassin, jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein, mon pointeur, mon incendiaire, en auras-tu assez brûlé, des hommes torches et violés, des jeunes filles impubères. Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux, va de l'équateur au tropique, à arracher le bonheur des yeux. Va mon fils, va tu civilises, et puis meurs comme un épinal, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait du mal. Voyeur de mort, lanceur de feu, bâtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Voyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer.
Voilà ce morceau, La Gloire, qui ouvre le nouvel album de Bernard Lavilliers, chanson sur un poème de Pierre Segers, et c'est Christophe Comte qui ouvre cette dispute. J'attends que vous me parliez de Bernard Lavilliers depuis que c'est programmé. Hein.
Bah oui, j'imagine, mais en plus c'est moi qui ai demandé, donc bah oui. Voilà, j'assume complètement.
Mais je m'en réjouis, je crois très bien qu'on parle de Bernard Lavilliers.
Moi, Lavilliers, j'entretiens un rapport assez lointain avec Lavilliers, mais pas du tout hostile. C'est quelqu'un qui compte, je trouve, dans la chanson française et qui a suivi une route vraiment pour le coup unique, qui en fait quand même une sorte de survivant d'une époque et qui continue à faire des disques, en tout cas celui-là, en essayant d'aller voir des gens qui sont pas les éternels musiciens avec lesquels il a pu jouer sur scène. Là, il s'est mis un petit peu en danger, on va dire, en allant voir les gens de Feu Chatterton, en allant voir Fred Palem et Romain Humeau étaient déjà sur les deux précédents albums, mais Fred Palem, là, on vient de l'entendre sur ce morceau-là, a apporté quelque chose dans les arrangements d'assez flamboyant, d'assez musique de film, à la François de Roubaix, dont il est évidemment un grand fan.
Tout comme vous.
Tout comme moi. Et il y a aussi Florent Marché qui a arrangé un morceau, il y a Jeanne Chéral qui chante sur un morceau, je crois que c'est le même d'ailleurs, Florent Marché qui avait invité Lavilliers dans le
Frère Animal.
Sur Frère Animal. Lavilliers, on l'a vu aux côtés de Cyril Mocaïèche aussi récemment. Il a été comme ça réhabilité petit à petit parce que c'est un survivant, encore une fois, et parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment complètement corrompu. Alors certes, il a fait des morceaux que tout le monde connaît, qui ne sont pas très glorieux, hein,
mais qui était sincère.
Oui,
moi,
oui,
c'est
tout
quelqu'un
à fait.
Que je sens toujours sincère.
Et c'est quelqu'un qui, Joseph Gosse, je les ai réécoutés, ces tubes des années 80.
Ouais.
Et je trouve que c'est des morceaux qui ont plutôt bien vieilli, en fait.
Ouais, alors.
Qui c'était des si à l'époque, parce qu'on les entendait beaucoup. Et il y a quelque chose
les
qui.
Les morceaux sont plutôt bons.
C'est des bons morceaux, ouais.
Alors, pour revenir à l'origine de Lavilliers, quand même, il a fait des albums, au tout début, le Stéphano, etc., qui étaient extrêmement bien arrangés, qui étaient avec les musiciens de Christophe, enregistrés au studio Ferber, avec les arrangements de Karl-Heinz Schaeffer. Il y a quelque chose de vraiment d'une empreinte des années 70. Quand on les réécoute aujourd'hui, ce sont vraiment des disques très étonnants pour l'époque. Et je trouve que là, les gens qui ont travaillé pour lui ont voulu retrouver ce souffle-là, notamment Feu Chatterton, en utilisant à un moment du thérémine, des instruments comme ça assez rares. Et puis, je trouve que ce que raconte Lavilliers, alors par moment, on peut aussi dire, ok, il est vraiment sur son terrain, dans sa zone de confort. Il y a un morceau sur Florange, il y a un morceau sur le Bataclan. Ce poème de Pierre Segers, alors pour le coup, moi, quand j'ai écouté la première fois, je croyais que c'était un texte de Lavilliers. Je connais pas très bien Pierre Segers, et je me suis dit, pour le coup, il a très bien résumé notre époque quand même. Enfin, ça parle
c'est un texte des années 50, là.
Voilà, et là, ça parle complètement de ce qu'on vit aujourd'hui.
Ça parlait de la guerre d'Algérie. C'est un texte qui parle de la guerre de l'Algérie et qui fonctionne très bien aujourd'hui.
Qui fonctionne très bien. Il y a des morceaux, certes, évidemment, où il est un peu dans l'expression un peu forte et virile. Mais je trouve que, déjà, il n'y a pas le côté, moi, qui m'a toujours un peu gonflé de Lavilliers sous les tropiques. Là. Il y a un morceau un peu afro-cubain, même si c'est ce qui a fait sa gloire à un moment. Et c'est
il ne le fait pas si mal.
Il ne le fait pas si mal, en plus. Je trouve
on a parlé de Laurent Voulzy il n'y a pas longtemps, rappelez-vous. Hein.
Et
il fait moins bien quand même.
Et Lavilliers, il a pour lui d'être quelqu'un dont on sait qu'il est, il a une légende autour de lui. C'est un mythomane, on le sait. Il s'est inventé des histoires, mais il a aussi vécu un petit peu. Bon, on va dire qu'il a un peu enjolivé certaines choses, mais il est aussi, il a vécu des choses assez extraordinaires. C'est un type qui a été ouvrier, qui est dans la métallurgie, qui a été tôlard, qui a été routier, qui a fait plein de boulot, qui a bourlingué. Et voilà, je trouve qu'il a quelque chose qui reste de tout ça dans un disque qui est assez sombre, assez urbain, qui a été enregistré en partie à Charleroi et à Paris, où il n'est pas allé se perdre sous les tropiques. Il a gardé un cap et je trouve que c'est un disque assez audacieux, assez culotté. Je pense que vu le public que touche Lavilliers, c'est-à-dire des gens qui pourraient aussi acheter des disques de Patrick Bruel ou je ne sais pas qui sont des consommateurs de la variété française, et bien là, ils vont avoir accès à quelque chose qui est un peu plus dense, un peu plus raffiné, et notamment au niveau des arrangements.
Vous en parlez très bien, Christophe Comte, et ça ne m'étonne pas de vous. Mathieu Conquet, sur ce nouveau disque de Bernard Lavilliers.
Alors, restons sur les arrangements un instant. Vous n'avez pas mentionné deux morceaux réalisés par Benjamin Biolay qui évoquent un Paris suranné, un Paris brisé.
C'est pas mes préférés.
oui, c'est sans doute les plus faibles. Montparnasse, Buenos Aires, où il évoque Soutine, Apollinaire, le passage de l'ombre à la lumière, et puis il y a Paris, les grises. Là, c'est les caniveaux mouillés, enfin vraiment, mais tous les clichés. Alors, vous n'en pouvez plus entendre sur Paris.
Un petit détail là-dessus, Lavilliers, parce que j'ai interviewé, m'a dit qu'il avait une chanson pour Biolay, parce qu'ils n'arrivaient pas à travailler ensemble, parce que Biolay était toujours occupé, et quand il lui a donné Montparnasse, Biolay a dit pourquoi j'en ai qu'une, et donc du coup, il est allé en écrire une deuxième dans la foulée, c'est pour ça qu'elle est un peu...
Bon, on attend la nouvelle star, Benjamin Biolay.
Il évoque François Villon, l'accordéon et le temps des cerises. Enfin, c'est dingue de faire soi-même ses propres clichés comme ça. Bon, c'est des morceaux qui sont assez faibles. Vous avez parlé de l'association avec Feu Chatterton. Effectivement, elle fonctionne vraiment bien, je trouve, sur le morceau Charleroi. Je vois ma ville comme un amant trompé par un riche imbécile. Je vois ma ville comme un aimant. Ça me rend fou, presque débile. Il y a une touche un peu lysergique aussi que moi j'aimais beaucoup. Effectivement, vous avez mentionné l'album Le Stéphanois. Il y avait les aventures extraordinaires d'un billet de banque, qui est un morceau mais fabuleux. Ouais, et on retrouve ce côté conteur très très réussi chez Lavilliers. Mais il y a une façon d'accentuer parfois, de prononcer de façon très lourde, très surlignée, très vieille, très
style.
À la casse. Ah ouais, mais alors je sais pas, je trouve que
il n'est pas sensible.
C'est... Non, vraiment, c'est très manspreading, je trouve.
Non, mais je trouve. Vous voulez dire qu'il écarte les jambes quand il chante. Mais il y en a d'autres. Mais Céline Dion aussi.
Je trouve que ça s'entend beaucoup. Et là, on sait le goût. On sait le goût de la poésie. Ça, en revanche, j'ai vraiment
la
une
chanson
estime.
Manspreading. Posez-le tout de suite.
Non, mais on sait le goût de la poésie de Bernard Lavilliers. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui pour cette raison, parce que.
Oui, parce qu'il est costaud aussi.
Il est non, mais parce qu'il est. C'est vraiment quelqu'un qui est capable en concert. Il avait adapté la prose du Transsibérien de Sandrars et ça lui allait très bien. Et la production musicale qui l'accompagnait, en plus c'est un texte qui est long, hein, c'est un morceau qui fait un quart d'heure. C'était très bien. Il est capable de dire du Maïakovski sur scène. Il est vraiment porteur d'un amour de la littérature et effectivement je trouve ça très fort et on sent qu'il le fait avec sincérité. Mais si on reste à Maïakovski, moi je trouve cet album c'est pas la gifle au goût public, mais plutôt la gifle au goût du public, parce que on ne peut jamais aller contre Bernard Lavilliers. C'est-à-dire que il écrit un morceau sur les naufragés et
non,
sur
mais c'est comme Émile France, la guerre c'est mal, on est d'accord.
Non mais voilà, enfin, mais c'est
la
oui
fin
mais,
dans le monde,
mais
c'est,
stop,
c'est affreux.
Quoi,
mais moi je sens la sincérité.
Bah, il est plutôt pas mal en plus ce morceau Croisière méditerranéenne. Je trouve ça un assez beau morceau.
Joseph Gosse, qu'on n'a pas encore entendu, pardon.
Alors. Moi, comme ça, j'ai très peu de sympathie pour Bernard Lavilliers, qui est pas du tout dans mon spectre, ni dans mes goûts. Cela dit, j'étais vraiment surpris par cet album, vraiment. C'est-à-dire le morceau qu'on a écouté, je le trouve assez remarquable. Vous enlevez sa voix, vous mettez la voix de quelqu'un d'autre, vous dites, je sais pas, au hasard, que c'est un morceau de R. Je pense que tout le monde crie au chef-d'œuvre. Et effectivement, on est pas loin de ça.
C'est-à-dire que je te mettrai un vocodeur et ça va aller.
Par exemple. Mais c'est-à-dire qu'il y a, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que ce qui est le plus rebutant chez Lavilliers, c'est Lavilliers lui-même.
Ça oui, mais je trouve que sa voix a beaucoup changé. Moi, j'avais pas écouté depuis très longtemps. Je préfère beaucoup sa voix 2017 de sa voix de 77.
C'est vrai que l'année dernière, on a ressorti l'album Pouvoir qui date de 79. Il a rejoué sur scène, etc. Et quand on écoute Pouvoir aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quasiment inaudible. Hein. C'est très difficile, la voix, les arrangements de l'époque sont... Alors que c'est un
disque important. J'aime bien sa voix aujourd'hui.
Mais sa voix, ouais, il y a un côté plus posé aussi.
Ouais. La voix, effectivement, est pas mal. Moi, ce qui me gêne plus, c'est ce qu'il chante et la façon de chanter. C'est-à-dire qu'il est... Il est très direct, quasiment très naïf, quand il cite, effectivement, un moment, il cite Daesh, il cite les Palestiniens, etc. On a l'impression que c'est une autre époque, que c'est une autre manière de parler des choses, qui pourrait être un peu plus subtile et un peu plus dans la nuance, en tout cas, il pourrait se départir de ça. Mais après tout, c'est quasiment Lavillier qui fait du Lavillier. Mmh. Et au bout du disque, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme si on avait besoin d'un Lavillier, c'est-à-dire cette espèce de monolithe un peu autour duquel il y a des choses qui se cristallisent. Ça parle certainement à beaucoup beaucoup de gens, sans doute beaucoup plus que je sais pas au hasard. À Étienne Dao, je sors un nom comme ça au hasard, qui lui est beaucoup plus dans l'impressionnisme, par exemple dans l'écriture, voilà, pour comparer deux personnes qui ont fait des tubes dans les années 80. Mais enfin voilà, bref, toujours est-il que il y a quelque chose d'assez surprenant dans cet album. Le morceau avec Jeanne Chiral, par exemple, qui termine l'album, si je me souviens bien, est très très beau. Je trouve très bien, très réussi. Il y a quelque chose dans les voix qui marche bien. Après, voilà, ça ne me touche pas plus que ça, mais c'est principalement à cause de lui. Mais c'est aussi moi qui suis très peu sensible à lui.
Mathieu Conquet.
Oui, mais vous mentionnez Étienne Dao. Si vous écoutez, j'encourage à écouter Un Nouveau Printemps, qui était un morceau, mais beaucoup plus nuancé sur le drame de ceux qui arrivent à Lampedusa, morts ou vivants. Et c'était, mais vraiment beaucoup plus nuancé. Je veux dire, Lavillier, là, quand il chante, quand il chante. Alors, moi, j'ai entendu dire, il n'y a plus personne qui parle de DRH, de la violence sociale et tout. Déjà, c'est faux. Frère Animal, Florent Marchais, Anne-Catherine, ils font exactement la même chose. Mais ça sonne aussi faux. C'est-à-dire que vraiment, il y a un problème dans la façon de le dire et de le faire. Qui ait de bonnes intentions et en plus qu'on ait envie d'être d'accord avec eux, pas de problème. Mais la façon de le faire, c'est insupportable. C'est même pas bressonien et froid, c'est même pas cynique, c'est entêté avec une forme de certitude d'être du bon côté que je trouve un peu pénible.
Joseph, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un comme Dao, mais on pourrait prendre d'autres exemples, est beaucoup plus impressionniste et que du coup, effectivement, quand il parle de Lampedusa ou de ce genre d'histoire ou de récits politiques, arrive à toucher à l'universel, en fait. Tandis que Lavillier est tellement
c'est
direct.
Très premier degré.
Est tellement premier degré qu'on ne peut pas se départir du moment présent. Et c'est ça aussi qui, à un moment, est un peu gênant.
Ça vient pas de la même,
Christophe Comte,
de la même famille.
Il est plus dans le slogan, quoi. Et
Lavillier, c'est l'héritier de Léo Ferré. Léo Ferré, dans le genre pied de plomb, il s'est posé là, quand même. Aujourd'hui, c'est une stature indéboulonnable. Une statue indéboulonnable, mais. Voilà, quand on réécoute aujourd'hui Amour Anarchie, je suis désolé, c'est aussi pied de plomb, que beaucoup plus d'ailleurs que Lavillier.
Qu'on est en 2017, on n'est plus dans la même époque.
Oui, mais la manière dont il le fait, c'est aussi...
On regarde le monde d'une façon quand même plus complexe que les paroles de Bernard Lavillier
représente. À l'époque, Amour Anarchie vient aussi de Léo Ferré sur scène avec un groupe, et qu'il y a aussi un engouement populaire qui se fait sur scène. Alors que là... On est quasiment dans du commentaire journalistique un peu de base, quoi.
C'est vrai que c'est un peu le journal télévisé. Quand on l'écoute, il y a tous les sujets. Il manque le sport.
Il manque la météo. Et le sport.
Mais moi, ça m'est assez sympathique, finalement.
On finit sur ce côté sympathique. On n'a pas le résultat de l'équipe de France de football ce soir.
Je voudrais juste redire qu'effectivement, ce morceau qu'on a écouté et beaucoup d'autres sur l'album sont quand même très très beaux. Enfin, il y a des choses qui sont très posées, très réussies.
C'est un texte de Pierre Segers, on le rappelle encore une fois.
Je parle de la musique.
Ah, la musique aussi, ouais, mais ouais. Elle sonne autrement, cette musique. 5 minutes de paradis, selon les paroles, voulais-je dire. De Bernard Lavillier, sorti chez Barclay. Alors, il y a tellement de dates... Je vais faire un petit peu au hasard, je vais faire la prochaine, ou la première d'ailleurs. Ce sera le 3 novembre à l'Agora d'Evry, il passera par la Belgique, au Théâtre Royal de Mons, le 4. Qu'est-ce que je veux dire, des villes dont on parle pas assez souvent? Agen, par exemple, le 16 novembre, au Centre des Congrès, Arcachon, le 17. Ensuite, je vais aller vers Damary-les-Lys, le 9 décembre, Lausanne, à nouveau, on en parlait tout à l'heure, 13 et 14 pour Bernard Lavillier. Passons au mois de janvier avec Beauvais, le 25 janvier, le Petit Quévilly, le 26. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Le 2 février à Orléans. Non, mais ça concerne du coup beaucoup, beaucoup de gens, parce que Bernard Lavillier sillonne la France. Il y aura encore Montbéliard, Caen, Rennes, Brest, Lyon, ce sera pour le mois de mars. Toulouse le 16, Maxéville, Strasbourg. Ça finira à Niort le 20 avril, à l'Acclameur, à la longue tournée. Je sais pas, il doit y avoir une 30-40 dates de concert pour Bernard Lavilliers et pour donner à entendre en live les morceaux de 5 minutes au paradis, puis sans doute beaucoup d'autres. Et on conclut avec le jeu des disputes et on commence par un rappel de la question du jeu d'hier au soir et c'est Grégoire Di Fiore et qui s'y colle.
Quel ouvrage de l'auteur de science-fiction Greg Egan inspire la pièce France Fantôme ?
La réponse est ?
La cité des pères mutants.
France Fantôme, c'est la pièce à l'affiche du Théâtre du Nord de Tiphaine Raffier en ce moment. On fait gagner ce soir des invitations pour voir l'exposition Artisans de la Seine à découvrir jusqu'au 11 mars au Centre National du Costume de Seine à Moulins. Quelle est la question ?
Quel célèbre danseur demanda dans son testament qu'une galerie d'exposition commémore son style de vie, sa carrière et rappelle sa mémoire ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. J'espère que vous l'avez tous fait autour de cette table. Préparez vos commentaires, non pas demain, demain, exceptionnellement, demain la dispute sera enregistrée, figurez-vous, à 14h30 à la Fondation Louis Vuitton, donc ça va être compliqué pour le fil Twitter en direct évidemment. Nous serons dans cette Fondation Louis Vuitton à l'occasion de l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris, qui ouvre demain. Il y aura aussi la grande table avec Olivia Gesbert à midi et puis après l'enregistrement de la dispute, un enregistrement celui des regardeurs de Jean Deloisy. On parlera donc de l'expo de Louis Vuitton, mais également de l'expo Gauguin l'alchimiste au Grand Palais.